Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans 4 jours, nous commémorerons le 100e anniversaire de la 3e apparition de Notre-Dame à Fatima. Essayons de nous y préparer. 14 juin 1917. Au lendemain de la 2e apparition de Notre-Dame à la Cova da Iria, le curé a interrogé Lucie. Il a conclu l'entretien par ces mots : « Cela ne me paraît pas être une révélation céleste. Il n'est pas possible que Notre-Dame vienne du ciel sur la terre uniquement pour dire qu'on récite le chapelet tous les jours. Cela pourrait être aussi une tromperie du démon. » Pressentant les fruits de grâce que notre Seigneur tirerait de cette dévotion et l'importance de la 3e apparition, Satan se déchaîna alors contre la principale voyante, la petite Lucie. Se mettant à douter de l'origine céleste des apparitions, la petite fille, elle a à peine 10 ans, se trouble, tombe dans l'angoisse et finit par prendre la décision de ne pas aller au rendez-vous le 13 juillet. Elle commence par se cacher de ses cousins, mais finit par leur avouer, la veille du 13, sa décision. Les deux petits sont inconsolables, mais Lucie clôt la discussion. Elle est décidée. Satan semble avoir gagné. Il n'est peut-être pas inutile, chers fidèles, pour mieux saisir l'importance des révélations dont nous fêterons le 100e anniversaire dans 4 jours, de faire un bref rappel, une vue d'ensemble des apparitions qui ont précédé. Tout d'abord, pourquoi ces 3 enfants ont-ils été choisis parmi tant d'autres? Chers parents, écoutez bien, c'est une question d'éducation. Ce n'est pas à cause de leur piété. On se souvient comment ils avaient expédié leur chapelet au jour le jour. Mais Notre-Dame les a choisis parce que jamais, au grand jamais, ils n'auraient consenti à mentir. Notre-Dame va donc pouvoir leur confier en toute sécurité son message. Elle sait qu'il ne sera ni faussé ni altéré. Donc les enfants ont été choisis. L'ange est venu par 3 fois pour leur apprendre. Pour leur apprendre quoi? D'abord, à bien prier. Puis, à beaucoup se sacrifier. Enfin, à unir prières et sacrifices au sacrifice du Sauveur, notamment à la Sainte Messe. Pourquoi cette précision? Parce que, unis au Saint Sacrifice de la Messe, nos prières et sacrifices participent à la toute-puissance médiatrice des cœurs de Jésus et Marie. Ils n'ont plus la même valeur, alors. Préparés par la prière et le sacrifice, nos 3 enfants ont l'insigne honneur de voir Notre-Dame pour la première fois. Marie est mère. Elle connaît l'art d'éduquer les enfants. Reprenant systématiquement les thèmes de la prière et du sacrifice, elle viendra préciser, par petites touches successives, à chaque apparition, ce qu'elle demande comme prière et comme sacrifice. À la première apparition, Notre-Dame vient demander comme prière le chapelet tous les jours, comme sacrifice, de s'offrir cette fois tout entier, et non pas simplement tel ou tel acte, de s'offrir à Dieu comme victime pour les pécheurs. Il ne s'agit plus d'offrir tel sacrifice ou tel renoncement, mais de s'unir soi-même à Jésus victime pour devenir une victime d'amour. Et toujours aux mêmes intentions, à savoir réparer les péchés et ainsi consoler Dieu, supplier pour obtenir la conversion des pécheurs, afin d'attirer la paix sur notre patrie et le monde. Les enfants ayant accepté, la Vierge les prévient. Ils auront beaucoup à souffrir. À la 2e apparition, les enfants s'étant totalement offerts au bon Dieu, Notre-Dame vient préciser quelle sera leur mission. Se dévouer entièrement, mais chacun différemment, au cœur immaculé de Marie. Écoutons bien ces différentes missions et puis réfléchissons, car chacun d'entre nous, Dieu nous appelle à quelque chose de spécial, de particulier. Nous n'avons pas tous la même mission. François devra plus spécialement consoler Dieu. La petite Jacinthe, elle, consacrera toute sa vie pour sauver les pécheurs. Quant à Lucie, elle a été mise en réserve par Notre-Dame pour être l'apôtre de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Bien sûr, aucun des trois ne s'exclut, mais les enfants vont faire porter leurs efforts plus spécialement sur tel ou tel aspect de leur mission. Et Notre-Dame termine la deuxième apparition en faisant les plus belles promesses qu'il est bon de relire et de méditer souvent, chers fidèles, pour ceux qui embrasseront cette dévotion. Mais revenons au soir du 12 juillet. Lucie a catégoriquement déclaré à ses cousins qu'elle n'irait pas le lendemain à la Cova d'Aeria. Le petit François tente une ultime démarche et va voir, seul, sa cousine après le souper alors qu'il fait déjà nuit. Rien à faire, Lucie est intraitable. Alors, ce petit garçon, qui n'a 9 ans que depuis un mois, passe la nuit entière à prier. Le lendemain matin, une force étrange à laquelle il m'était très difficile de résister, dira sœur Lucie, s'empare de la voyante, et voilà nos trois pastoureaux partis. Toute la nuit en prière pour obtenir une grâce. Quelle leçon! Et nous qui nous impatientons si souvent lorsque le Dieu Tout-Puissant ne daigne pas répondre tout de suite, n'est-ce pas, à nos petites neuvaines. Sachons persévérer dans la prière. Donc les enfants se sont mis à prier le chapelet. Et Notre-Dame ne peut résister à cet appel et leur apparaît. Cette apparition est sans doute la plus importante des 6 apparitions. C'est celle où Notre-Dame donnera aux enfants le secret. La dernière apparition, bien sûr, est importante à cause du miracle du soleil. Mais ce miracle ne vient, somme toute, que donner le sceau divin au message que Notre-Dame transmet dans 4 jours, cela fera 100 ans. Un sermon est loin de pouvoir épuiser la richesse de telles révélations. N'hésitons pas à lire, relire et méditer ces textes, par exemple jeudi prochain. Pour aujourd'hui, essayons de voir l'essentiel de ce que Notre-Dame veut nous dire. Pour ce faire, nous allons diviser l'apparition en 3 parties. D'abord, nouvelle précision sur la prière et le sacrifice. Puis, la vision de l'enfer. Enfin, la puissance néfaste du péché et son remède, le cœur immaculé de Marie. Notre-Dame va commencer par donner une nouvelle précision sur la prière. « Que veut de moi votre grâce ?» demande Lucie. « Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours, en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir. » Notre-Dame vient rajouter, comme précision au chapelet, qu'il nous faut le réciter en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, et elle insiste, seule, absolument elle seule, peut nous secourir. Alors que tout autour de nous, les indices semblent indiquer qu'une nouvelle guerre est en train de se mettre en place de par le monde entier, retenons bien que seule Notre-Dame du Rosaire peut nous secourir. Invoquons-la sous ce vocable, par exemple, à la fin de chacun de nos chapelets, et prenons le moyen indiqué par elle-même pour le salut des nations et la paix dans le monde. Alors bien sûr, la plupart d'entre nous, nous disons notre chapelet tous les jours. Mais peut-être devrions-nous faire porter notre examen de conscience sur la place que nous lui accordons dans nos journées. C'est l'unique moyen. Rappelons-nous les horreurs de 14-18, les horreurs de 39-45. Rappelons-nous les horreurs du communisme avec le goulag et les millions d'hommes qui sont morts dans les souffrances les plus affreuses. Notre-Dame l'a dit, c'est le seul et unique moyen. Qu'en faisons-nous? Est-ce que nous lui donnons la place d'honneur en famille, en prenant le temps et les moyens pour bien le prier? Ou bien est-ce que trop souvent nous le bâclons, nous le reléguons au trajet en voiture, ou bien à un autre moment où notre esprit occupé récitera machinalement sans le prier. Il faut prendre les moyens donnés par le ciel. Ne faisons pas comme les papes et comme l'épiscopat portugais, qui ne répondirent que partiellement aux demandes de Notre-Dame de Fatima et qui sont responsables moralement de la Deuxième Guerre mondiale. Nouvelle précision sur le sacrifice. Je voudrais vous demander, continue Sœur Lucie, de nous dire qui vous êtes et de faire un miracle afin que tous croient que votre grâce nous apparaît. Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je dirai qui je suis, ce que je veux, et je ferai un miracle que tous pourront voir pour croire. Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent à Jésus, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice, « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Notre-Dame vient ici donner une leçon de haute spiritualité aux enfants. Dieu regarde plus au cœur qu'au don. Un sacrifice offert sans amour n'a que peu de valeur à ses yeux, tandis qu'une simple invocation, mais faite avec beaucoup d'amour, peut sauver une âme. Pour nous habituer à tout faire et tout souffrir par amour, l'Immaculée vient nous apprendre cette petite prière. Ô mon Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Si nous n'y pensons pas systématiquement, prenons au moins l'habitude de la dire à la prière du matin, dans l'offrande de notre journée, pour orienter toutes nos journées dans cette intention, par cette intention. Et chers parents, faites-la dire à vos enfants, spécialement quand ils viennent vous voir pleurer dans vos bras et vous raconter leurs souffrances, leurs croix, leurs misères, la dernière souffrance qu'ils viennent d'avoir. Apprenez-leur à ce moment-là à tout offrir, à tout accepter par amour. Vous leur rendrez ainsi le plus signalé service. Deuxième partie, la vision de l'enfer. La Vierge Marie va montrer l'enfer aux trois enfants. Rappelons leur âge. 10 ans, 9 ans, 7 ans. Pourquoi Notre-Dame a-t-elle fait cela? Les enfants n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas été effrayés. Non, ils ont été terrorisés. Lucie dira même que sans la promesse formelle de Notre-Dame de les amener au ciel, ils en seraient morts de frayeur. Alors pourquoi une maman en a-t-elle agi ainsi avec ses enfants? Eh bien, pour deux raisons. Tout d'abord, pour enflammer leur générosité. Jusqu'ici, les enfants se contentaient d'accepter les souffrances que le bon Dieu voulait bien leur envoyer. Après la vision de l'enfer, leur générosité n'aura plus de bornes. Ils passeront des journées entières sans boire, en plein été, au Portugal. Ils donneront leur repas à des pauvres et se nourriront de glands. Ils se fouetteront avec des orties. Ils porteront une corde autour des reins. Ils iront si loin que la Vierge Marie devra leur dire d'arrêter certaines choses. Chers parents, permettez ici cette douce remontrance. Les enfants sont généreux. Beaucoup plus que nous, la plupart du temps. Ils sont capables de beaucoup, à condition de les stimuler. Que de fois, sous prétexte de les préserver, on ne leur parle pas de telles offenses publiques envers notre Seigneur, envers Dieu. Bien sûr, il ne s'agit pas de les choquer. Mais croyez-vous qu'en 14-18, en 39-45, les enfants ont été épargnés, n'ont pas été choqués par ce qu'ils ont vu? Sans rentrer dans tous les détails pour ne point scandaliser, sachons lever une armée d'enfants capables de consoler notre Seigneur, Notre-Dame, et de convertir les pécheurs pour obtenir la paix. Donc d'abord pour enflammer leur générosité, puis ensuite pour leur montrer toute l'importance de la dévotion envers le cœur immaculé de Marie. Continuons le récit. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. La guerre va finir. Mais, si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI en commencera une autre pire. Ici, Notre-Dame nous indique quelle est la cause profonde de tous les malheurs, de toutes les souffrances. Au-delà des enjeux politiques, au-delà même de toutes les machinations de la contre-église, de la franc-maçonnerie, etc., la première et principale cause des souffrances et des malheurs, c'est le péché. Notre-Dame continue. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. Hélas, les papes et les évêques ayant fait la sourde oreille aux demandes de Notre-Dame, cherchant à obtenir la paix par des moyens purement humains, le 25 janvier 1958, le signe annoncé par Marie eut lieu. Le père Caillon, qui a fait une série de conférences sur Notre-Dame de Fatima, raconte. Il était enfant lorsque le signe a eu lieu. Il l'a vu, il en témoigna. Il était dehors, en train de jouer avec des camarades. Et le ciel, alors que la nuit était déjà tombée, le ciel bleu avec les étoiles, a commencé soudain, petit à petit, à s'illuminer. Il a commencé par croire que c'était un village qui avait pris feu. Et comme la lumière commençait à croître de plus en plus, il a fini par croire que c'était la ville entière qui avait pris feu. Il a appelé même là-bas pour demander s'il n'avait pas besoin d'aide et s'il ne fallait pas aller les secourir. Mais ce n'était pas la ville qui était en feu. C'est le ciel entier, sauf un tout petit coin. Le ciel entier qui avait pris qui était rempli d'une lumière couleur rouge sang. C'est très significatif. Sauf un tout petit coin où l'on voyait encore le ciel bleu étoilé pour bien voir la différence. Les pseudo-scientifiques de l'époque parlèrent d'aurore boréale. On refusa le signe et la Deuxième Guerre mondiale vint faire expier l'endurcissement général des cœurs. Alors s'il n'est pas en notre pouvoir de consacrer la Russie, faisons au moins ce qu'il nous appartient de faire. Le chapelet, bien comme il faut tous les jours, la communion réparatrice des premiers samedis du mois, et puis soyons apôtres du cœur immaculé de Marie autour de nous. Il est d'ailleurs très consolant de voir que depuis quelques mois, l'assistance à la messe lors des premiers samedis du mois s'est multipliée de façon significative. Comme notre Seigneur et Notre-Dame doivent être heureux. C'est un gage de grâce pour toutes vos familles, chers fidèles. Notre Seigneur et Notre-Dame reviendront un peu plus tard sur cette consécration et cette nouvelle dévotion réparatrice en 1925, en 1929 et en 1930. Aussi, passons et continuons. Au Portugal, se conservera toujours le dogme de la foi, etc. Par ce petit « etc. », Sœur Lucie montre ici la place de la troisième partie du secret qui a fait couler tant d'encre et qui reste encore aujourd'hui bien mystérieuse. Cette troisième partie qu'elle avait fait passer au Vatican et que Pie XII a toujours refusé de prendre connaissance. Quant à Jean XXIII, après l'avoir ouvert et l'avoir lu, il a simplement dit « cela ne concerne pas mon pontificat » et l'a mis de côté. Quant au pape Paul VI et Jean-Paul II, on sait à quel point ils ont relégué le secret et qu'ils n'ont pas voulu lui obéir à Notre-Dame. À ce moment, écrit Sœur Lucie, les enfants ont la vision des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Notre-Dame continue. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera donné au monde un certain temps de paix. Cela ne le dit à personne. À François, oui, vous pouvez le dire. Quand vous réciterez le chapelet, dites après chaque mystère, « Ô mon Jésus, pardonnez-nous, sauvez-nous du feu de l'enfer, attirez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Votre grâce ne me demandait-elle rien de plus ? Non, aujourd'hui, je ne te demande rien de plus. » De cette dernière partie de l'apparition, que pouvons-nous retirer? Tout d'abord, un motif d'espérance. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ensuite, et je dirais surtout, il faut que nous nous pénétrions de l'importance de la dévotion envers le cœur immaculé de Marie. Ce n'est pas le lieu ici de développer les autres apparitions. Notons tout de même que notre Seigneur viendra se plaindre amèrement plusieurs fois du peu de cas que nous avons fait de ses demandes, et cela dès 1931. Que de nous, du moins, il n'est pas à se plaindre. Signalons ici l'admirable travail fait par l'association Enfants de Fatima, avec notamment cette préparation à ma consécration au cœur immaculé de Marie. C'est très bien fait pour les enfants, et cela les aide puissamment à bien rentrer dans l'esprit de la dévotion. Chaque apparition est mise à leur portée, on leur apprend à réfléchir dessus, à tirer un trésor spirituel, et petit à petit, on rentre de plus en plus dans l'esprit du message de Fatima. Donc, chers fidèles, profitons des grâces du centenaire pour entrer à fond dans l'esprit de cette dévotion, qui, au-delà même du chapelet et des premiers samedis, vient donner une orientation nouvelle à toute notre vie. Le désir permanent de consoler Notre-Dame, de sauver les pécheurs et de réparer les péchés par la prière et la pénitence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Thank you.